Dans l'étude de la formation du contrat, nous abordons maintenant la question des vices du consentement. Alors, les vices du consentement sont l'erreur, le dol, la violence. Ils étaient déjà présents dans le Code civil de 1804. L'idée est que un vice du consentement vient, comme son nom l'indique, vicier le consentement d'une partie. Dans le contrat, il est très important que les deux parties aient consenti et aient consenti à la même chose. Et l'idée avec les vices du consentement, c'est que soit une partie s'est trompée, elle croyait que le contrat portait sur tel objet et en réalité cet objet n'a pas les caractéristiques qu'elle croyait, notamment, elle s'est trompée toute seule, c'est l'erreur. Autre hypothèse, elle a été trompée par l'autre partie, c'est le dol. Troisième hypothèse, l'autre partie a obtenu son consentement en exerçant sur elle une menace, c'est la violence. Et donc pour parler de ces trois vices du consentement, je suis avec Stéphane Sylvestre. Et donc Stéphane, nous allons évoquer l'apport de la réforme à ces trois vices du consentement. Donc nous voyons qu'il y a désormais dans le Code civil, aux articles 1130 et suivants, des dispositions sur les vices du consentement qui reprennent en réalité pour beaucoup les dispositions anciennes et qui reprennent également l'apport de la jurisprudence. Parmi les apports les plus importants, nous voyons que la réticence de l'osive, c'est-à-dire le fait de retenir intentionnellement une information, qui n'était pas expressément prévu dans le Code civil de 1804. Le Code civil de 1804 parlait de manœuvres, et des manœuvres, on peut penser que c'est le fait de, pour prendre un exemple de votre pratique, cher Stéphane, l'acquisition d'entreprise ou la cession d'entreprise, ce serait le fait de fournir une comptabilité qui a été maquillée, qui a été changée. Ça, ça serait une manœuvre. Mais la réticence de l'osive, c'est le fait de ne pas fournir une information importante et de le faire pour tromper l'autre partie. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup d'ailleurs en pratique pour contester une vente? Est-ce qu'un acheteur déçu facilement va invoquer la réticence de l'osive?
Alors, effectivement, la réticence de l'osive peut être invoquée, mais dans la plupart des dossiers dont nous avons à connaître, en réalité, nous faisons finalement des diligences de la part de l'acheteur suffisamment approfondies pour qu'à moins d'une véritable intention de tromper, nous ayons toutes les informations qui, d'ailleurs, au contraire, nous empêchent après, lorsqu'on est côté acquéreur, nous empêchent d'invoquer cette réticence de l'osive. Et nous rédigeons même, lorsque nous sommes côté vendeur, nous rédigeons les contrats de manière à bien affirmer, à ce qu'ils soient bien notés, que nous avons fourni à l'acquéreur toutes les informations qui lui ont été utiles pour que ce dernier puisse, de manière éclairée, contracter.
D'accord. Avec toujours le risque, comme nous l'avions évoqué, qu'il vienne éventuellement invoquer le nouveau devoir général d'information de l'article 1112-1, alors même qu'on avait dit que l'information était complète et suffisante et qu'il s'estimait suffisamment informé, il pourra dire « mais non, finalement, vous n'avez pas satisfait votre devoir général d'information ».
Oui, effectivement, ce nouveau devoir général d'information va nous contraindre à être encore plus disert, encore plus à procéder de manière encore plus détaillée dès qu'il s'agira effectivement de contracter, donner non seulement la comptabilité, mais également tous les contrats qui sont importants. Mais c'est vrai que le devoir général d'information devient tellement absolu qu'on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il ne va pas falloir donner l'intégralité des informations sur l'entreprise. Ce qui pourrait même nous faire arriver à l'objectif inverse, à savoir qu'on noierait l'acquéreur sous un déluge d'informations.
D'accord. Alors, quand on regarde les textes qui résultent de l'ordonnance du 10 février 2016, on voit que, pour beaucoup, ce qui a changé, c'est, comme nous l'avons déjà dit, de la consécration de solutions qui étaient des solutions jurisprudentielles. Par exemple, on nous dit que l'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. Voilà, c'est une solution qu'on trouvait déjà en jurisprudence. Je pourrais me tromper sur ma propre prestation, mais il faudra quand même que l'erreur soit excusable, et ça sera sans doute moins excusable de me tromper sur ma propre prestation. Donc, consécration de la réticence de l'osive également. Passons au troisième type de vice du consentement, qui est celui de violence. En matière de violence, on a surtout une évolution, c'est la consécration de ce qu'on appelle la violence économique. À l'article 1143 du Code civil, on nous dit « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » Donc, gardons le texte un instant sous les yeux pour voir vraiment les différentes conditions. Il faut un état de dépendance. Donc déjà, ce ne sont pas tous les contrats qui vont être concernés. Et il faut un engagement qu'on n'aurait pas souscrit sans la contrainte et un avantage manifestement excessif. Donc finalement, on reconnaît la violence économique que la jurisprudence avait reconnue comme étant un vice du consentement, mais on voit que les conditions sont particulièrement sévères, particulièrement exigeantes, puisque déjà, ce ne sont que les contrats où il y a un état de dépendance. Donc ce ne sont pas tous les contrats. Alors peut-être que ce sont les contrats quand on a un seul client, par exemple, on sera en état de dépendance. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le projet d'ordonnance qui avait été soumis à consultation, il y avait l'état de nécessité qui était visé aussi. Et l'état de nécessité, c'était particulièrement inquiétant parce que la violence, c'est le fait d'imposer des conditions que l'autre partie est tenue d'accepter parce qu'elle est dans la nécessité de conclure un contrat, on va dire que finalement, beaucoup de contrats, on ne les conclut que parce qu'on a besoin de les conclure, qu'on a la nécessité de les conclure, et donc toute clause un peu avantageuse pour l'autre partie va être justifiée par l'état de nécessité. Je crois que c'est une bonne chose qu'on ait retiré l'état de nécessité de l'article 1143 du Code civil. Mais voilà, on voit que c'est quand même un texte qui reconnaît ce vice du consentement. Est-ce que vous pensez, cher Stéphane, que ça va vous ouvrir des perspectives particulières, vos pratiques étant celles de l'acquisition et cession d'entreprise avant tout, on n'est peut-être pas dans des situations de dépendance?
Alors, pour le coup, les situations de dépendance en la matière peuvent se poser. Même si la plupart du temps, les contrats ont lieu entre professionnels, qui sont donc censés être éclairés et égaux, qui sont censés l'être, il n'en reste pas moins que si je suis un petit agriculteur et que je dois conclure un contrat d'approvisionnement avec la grande distribution, et surtout, comme vous l'avez évoqué, si ce distributeur est mon principal ou mon seul débouché, il est effectivement difficile de dire que je ne suis pas dans une situation de dépendance. Pour autant, les deux autres conditions à remplir sont quand même particulièrement difficiles, puisqu'il va falloir ensuite caractériser un engagement que je n'aurais pas souscrit en pareille circonstance, et surtout un avantage manifestement excessif. Alors ça donne à nouveau au juge un très grand pouvoir, parce qu'à partir de quel moment on va pouvoir considérer que l'avantage est manifestement excessif, bien malin qui pourrait le dire aujourd'hui.
Alors ce texte, l'application de ce texte, sera effectivement dépendante de l'approche qu'en auront les juges. Est-ce que les juges seront très audacieux, seront souples, considéreront qu'avantage manifestement excessif, c'est un avantage qui n'aurait pas été consenti dans des conditions normales, ou est-ce qu'ils vont demander que l'avantage soit absolument exceptionnel, et auquel cas on aura moins de violence économique? Ça fait partie sans doute des textes qui vont appeler une certaine attention dans les années à venir sur l'application jurisprudentielle qui en sera faite. On pourrait aussi faire le pronostic que finalement ça ne va pas changer grand-chose parce qu'on avait déjà en jurisprudence la notion de violence économique et on n'a pas le sentiment que le monde contractuel en a été renversé.
Oui, mais pour autant, même si les conditions en question sont difficiles à remplir, il n'en reste pas moins qu'une porte est ouverte. On peut se poser la question, par exemple, pour revenir à l'exemple entre les agriculteurs et la grande distribution, puisque c'est l'actualité, si par exemple je suis obligé de vendre à perte au distributeur, est-ce que celui-ci n'en tire pas un avantage manifestement excessif ? À quel niveau faut-il apprécier cet avantage manifestement excessif? Est-ce que c'est manifestement excessif pour le distributeur ou est-ce que c'est manifestement excessif pour l'agriculteur qui, du coup, se ruine en concluant pareil contrat? Donc, ça peut, malgré tout, ouvrir un certain nombre de portes.
Parfait. Eh bien, donc, nous avons vu ce dispositif sur les vices du consentement, donc qui reprend les textes anciens en ni intégrant un certain nombre d'évolutions qui étaient pour l'essentiel des évolutions jurisprudentielles. Et cher Stéphane, je vous remercie.